France Culture.
Staline est né en
1879, le 21 décembre. Son père, le cordonnier Bessarion Djougachvili. Sa mère, Ekaterine Geladze. Staline est décédé en 1953 à Moscou, le 5 mars. Et il est né dans la ville de Gori.
Grande traversée, devenir Staline.
Становление Сталина.
Deuxième épisode, une jeunesse caucasienne. Marie Chartron, Diffy Mariani.
Eh bien, ses origines sont très modestes.
Svetlana Alilouyeva, fille de Staline.
Des générations et des générations de paysans très pauvres, des paysans géorgiens, c'est-à-dire des Asiatiques, des chrétiens d'Orient depuis le 15e siècle, comme les Arméniens. Seul son père est devenu ouvrier, cordonnier dans une usine. Sa mère, elle, était purement paysanne, avec ce visage si caractéristique de paysanne. Je pense que mon père a toujours gardé un fond paysan, une certaine austérité, une certaine rigidité, un certain conservatisme et un amour immense pour la nature, la campagne, le grand air.
Nous sommes à Gori, au nord-ouest de Tbilissi, dans un autre monde. Le monde arrêté du musée Staline. Empli de Russes, de Japonais, de Chinois, de touristes venus d'Asie centrale et de partout ailleurs. Nous parcourons la vie de Joseph Djougachvili presque comme une petite fable aux contours arasés. Parmi les objets et les documents, Staline est partout, dans ses grandes pièces en enfilade. En petit, en immense, en photo, en frise panoramique, en plâtre, sur un tapis ou en peinture, comme sur ce petit tableau intitulé « L'enfance de Staline », où on le voit en écolier brandissant sa casquette, un livre à la ceinture, tel un éclaireur guidant ses camarades. Un tableau peint a posteriori, au temps de son pouvoir absolu.
Voici la famille de Staline. Son père, Bessarion Djougachvili, n'était pas originaire de Gori. Il était né dans un petit village appelé Didililo, à côté de Tbilissi.
Nana Yashvili, guide au musée Staline à Gori.
Sa mère, Ekaterine Geladze, était né ici, à Gori. Bessarion Djougachvili est venu à Gori pour gagner de l'argent, disons-le ainsi. Il a rencontré là Madame Ekaterine et ils se sont mariés. Ils ont eu deux fils, Georgi et Mikhail, qui tous deux sont morts de la variole. Puis un troisième, Yosep.
Ronald Grigorsuni, historien.
Il a eu la variole. Il avait sur le visage des marques qu'il a conservées toute sa vie et que plus tard, pendant la période soviétique, on photoshopperait allègrement, même si Photoshop n'existait pas encore à l'époque. On les effaçait et on lui donnait cette apparence si étrangement lisse. Il a eu plusieurs accidents graves, au moins deux. Une fois, il a été heurté par un fiacre, et son bras gauche a été abîmé et a fini par s'atrophier en partie. À un moment donné, il a frôlé la mort, mais il a survécu. D'ailleurs, c'est un véritable survivant. Avant la Révolution, il connaît en permanence les exils, la prison, la vie dans des conditions inhumaines dans le Grand Nord sibérien, et pourtant il survit. C'est un type très robuste, il en sort plus fort et finit par devenir l'un des hommes les plus puissants du monde.
Le bouton de la rose s'est éclos, enlaçant la violette. Le lys s'est éveillé aussi et incline sa tête à la brise. L'alouette chantant haut dans les nuages et les rossignols emplis d'émotions disaient doucement ceci. Fleurie belle terre, prospère au pays d'Ivérie. Et toi aussi, petit Géorgien, par ton savoir, fais éclore ta patrie.
Surréaliste. Joseph Staline. Socello.
Je vous ai parlé de Josep. Son nom était bien Josep, oui. Mais nous, les Géorgiens, nous appelons tous les petits Josep Soso. C'est une manière affectueuse de nous adresser à eux. Lui aussi, on l'appelait Soso. Socello, cela signifie le petit Soso. Un surnom encore plus affectueux. Plus tard, quand il a écrit ce poème, il ne voulait apparemment pas révéler clairement son identité. Alors, il a choisi un pseudonyme et, devenu adolescent, il écrivait sous le nom de Socello.
Donc il y a, je pense, 6 poèmes.
Nino Kertadze, réalisatrice.
Une qui est devenue une très belle chanson. Les gens chantent dans les rues de Tbilissi, mais ça donne quand même une idée. Il parle de Dieu, il parle de protection de son pays, il demande la grâce des dieux. Enfin, c'est comme des prières. Et curieusement, c'est Staline dans sa jeunesse.
Oleg Klevniuk, historien.
Écrire une biographie de Staline, c'est comme écrire la biographie de n'importe qui d'autre. La seule différence, c'est qu'il s'agit d'un dictateur qui a exercé un pouvoir immense et qu'il a eu une influence considérable sur l'histoire d'un vaste pays et sur l'histoire du monde à une période donnée.
Il n'a rien livré d'intime, pas beaucoup de lettres personnelles, ni mémoires, ni journal intime, ni rien de la sorte. Mais il y a quelques lettres, des récits de ce qu'il a dit, qui vous permettent tout de même de commencer à cerner son caractère et de voir comment il évolue au fil du temps. Je ne suis pas psychanalyste. Je ne peux pas psychanalyser Staline. J'ai consulté les archives, les documents, les mémoires qui l'évoquent, etc. Et j'ai utilisé les éléments tangibles que j'ai tirés de toutes ces archives pour essayer d'écrire un récit plausible de sa jeunesse. Et j'ai trouvé pas mal de matériaux pour ça. Mais j'ai également fait une autre chose. J'ai cerné Staline. J'ai utilisé Staline comme une espèce de focale pour explorer des questions plus vastes. L'histoire de la Géorgie, l'histoire de la Transcaucasie, le mouvement marxiste, le mouvement révolutionnaire, l'émergence et les évolutions de ce qui est devenu un gouvernement en 1917. Il fallait donner une idée du monde, de l'environnement dans lequel il évoluait.
Mon frère Vassili m'a dit un jour : tu sais que notre père a été géorgien autrefois ? J'avais 6 ans et je ne savais pas ce que signifiait être géorgien. Мне было 6 лет, и я тогда не знала, что значит быть грузином. Il m'a expliqué. Ils étaient vêtus comme des tcherkesses et ils poignardaient tout le monde. Voilà tout ce que nous savions de nos origines nationales.
Svetlana Alilouyeva, fille de Staline, prénom Joseph, patronyme Vissarionovitch. Qualité, révolutionnaire bolchévique et homme d'État soviétique. Homme d'acier, porte la moustache et une vareuse militaire. Et non une cherkessa, ou en géorgien tchora, le costume traditionnel caucasien, dont l'élément principal est un très beau manteau, ceinturé, avec des cartouchières sur la poitrine. Staline a façonné une légende tenace, figé autour de quelques images autorisées. De son passé, il n'a presque rien laissé transparaître de personnel, si ce n'est dans sa langue russe un accent géorgien. La trace de son enfance passée au pied du Caucase. Et pourtant, lorsqu'il arrive dans les cercles du pouvoir en 1917, il n'est plus un débutant, mais un homme mûr de bientôt 39 ans qui a déjà passé la moitié de son existence à préparer la révolution.
Nous sommes en Géorgie. Ici, en Géorgie, il y a une petite ville appelée Gori, qui est connue pour être le lieu de naissance de Joseph Staline. Il est né dans cette petite maison en 1879. Et plus tard, en 1957, un musée a été construit à côté de cette maison.
Je croyais que sa date de naissance, c'était 1878.
Il existe différentes versions, mais lui-même considérait et inscrivait sur les documents à chaque fois qu'il devait indiquer sa date de naissance qu'il était né le 21 décembre 1879.
Il est né le 18 décembre 1878 et sa date officielle devient le 21 décembre 1879.
Wir wissen ganz genau, wann geboren ist, weil in Gori, in seiner Geburtsstadt, gibt es Eintrag.
Nous savons exactement quand il est né, puisque cela a été enregistré à l'état civil de la ville de Gori. L'année, le jour. D'ailleurs, lui-même indiquait bien cette date au début. Et puis, peu avant de devenir secrétaire général du comité central du parti, il modifie sa date de naissance et se rajeunit d'un an et quelques jours.
Lacha Bakradze, chercheur en littérature et historien.
Das brauchte er nicht, weil es ist 1922, als das verändert.
Il n'avait pas besoin de ça. Nous sommes alors en 1922 et pour lui, ça n'a plus aucune utilité, que ce soit pour échapper au service militaire ou pour le travail politique clandestin.
Das ist schon eine interessante Sache, warum
Et ce décalage de quelques jours, c'est curieux aussi. J'y vois une raison purement ésotérique. Il n'y a pas de version unanime sur les raisons qui l'ont poussé à le faire. Il choisit le jour du solstice d'hiver, en décembre. Je ne me l'explique pas autrement que par des motifs purement ésotériques. On croit toujours que les communistes ne s'intéressent pas à l'ésotérisme, mais je n'ai pas d'autre explication.
C'est Cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de Staline, Théâtre Bolchoï, Moscou, le 21 décembre 1949.
Il chantait très bien. Il avait une oreille musicale exceptionnelle. Et interprétait des chants religieux et des chants folkloriques géorgiens. Ce sont des chants polyphoniques, c'est très difficile à chanter. Il chantait parfois à l'église. L'école paroissiale avait sa propre chorale dans laquelle il chantait. Vous voyez là sur la photo, celui qui est au milieu, le plus petit, c'est lui, c'est Soso.
À l'époque où Staline était à l'école, les cours n'étaient pas en géorgien, mais en russe. Et c'est une partie du problème. Les seules matières enseignées en géorgien, c'était la religion et la littérature. Donc Staline devait savoir le russe pour aller à l'école, et sa mère a tout fait pour qu'il l'apprenne. Elle était tellement déterminée à lui donner une bonne éducation qui lui permette de s'extraire du milieu social de son père, qui était un pauvre cordonnier, qu'elle a tout mis en œuvre pour ça. Apparemment, Staline y est plutôt bien arrivé, puisque le russe est devenu pour lui une deuxième langue très utile.
Il y a deux points de vue sur l'enfance de Staline. L'un affirme que Staline a eu une enfance difficile et une famille dysfonctionnelle. Il aurait été confronté à de nombreuses humiliations, ce qui aurait forgé ce caractère très particulier et cruel, qui s'est par la suite manifesté au cours de son existence. L'autre point de vue que je partage, c'est qu'il n'existe aucun document attestant que son enfance ait été aussi difficile. On peut même dire que, selon les standards de l'époque, son enfance était tout à fait normale, voire relativement prospère. Il était matériellement bien pourvu. Sa mère prenait grand soin de lui et pouvait compter sur le soutien de la communauté dans laquelle il vivait. Il n'y a donc aucune raison d'attribuer à son enfance ce qui s'est ensuite passé dans sa vie. Tout ce qui est arrivé par la suite relève entièrement de sa responsabilité. Et son enfance n'a rien à voir avec cela. C'est une opinion que je ne suis pas le seul à partager.
Irakir Vadagiani, historien.
Donc là, nous nous trouvons dans le vieux Tbilissi, juste à côté de la place de la Liberté. Et ce bâtiment, c'est l'ancien séminaire orthodoxe. C'est là que, de 1894 à 1899, Yoseb Djougachvili, plus tard connu sous le nom de Joseph Staline, a étudié pour devenir prêtre. C'est un bon endroit pour évoquer la manière dont les différentes facettes de sa jeune expérience ont forgé son caractère. À la fois séminariste, jeune homme originaire d'une petite ville de province qui atterrit dans la capitale du Caucase du Sud, Tbilissi, étudiant, contaminé par les idées révolutionnaires.
Quand Staline arrive à Tiflis, venant de Gori, qui est une petite ville de province, il arrive dans la capitale du Caucase.
Claire Mouradian, historienne.
C'est à la fois la capitale administrative, le siège de la vice-royauté, à un moment donné gouvernorat général, puis à nouveau vice-royauté. C'est la capitale aussi culturelle, économique.
À cette époque, la Géorgie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas d'État indépendant, ni aucune autre forme de souveraineté. Il s'agit d'un territoire contrôlé par l'Empire russe, la région du Caucase, une entité administrative qui a pour capitale la ville de Tiflis, l'ancien nom de Tbilissi. La région est régie par la loi coloniale russe alors en vigueur dans les périphéries. Une loi qui oppresse les minorités, les populations non russes, et ensuite, en particulier à la fin du 19e siècle, qui tente de les russifier.
Le Tiflis dans lequel Staline arrive est un Tiflis... On utilise encore le mot persan pour désigner Tbilissi, hein. On l'utilisera d'ailleurs quasiment jusqu'à la première indépendance, même dans les années 20. C'est une ville très cosmopolite, où se côtoient toutes les nations de la région, et elles sont nombreuses, il y a plus d'une centaine de langues. Bon, principalement les trois principales, hein, les Géorgiens, les Arméniens, un peu d'Azéri, mais il y a aussi d'autres populations du Caucase, des Russes bien sûr, qui sont à la fois dans l'administration, dans l'armée, il y a des garnisons bien sûr, la police, des fonctionnaires, et puis des Occidentaux. Il y a par exemple beaucoup de gouvernantes françaises qui viennent, ou de précepteurs qui viennent éduquer la jeunesse aristocratique. Le français est à l'époque la langue chic, hein, la langue des élites. Donc il y a toute une population très mélangée qui se côtoie dans cette ville, qui est une ville à la fois d'une certaine façon orientale, si tant est qu'on puisse utiliser ce cliché, avec son bazar, ses bains de Tiflis qui sont très célèbres, des petites ruelles, des maisons très typiques de la région avec leurs petits balcons, puis une partie de la ville très européenne, aussi par non seulement cette population venue de l'étranger, mais par son bâti, ses nouveaux bâtiments administratifs, ou ses bâtiments modernes, des théâtres, des écoles modernes, des lycées. Donc tout ça fait une ville très vivante, dont la population est très fière. Et donc être de Tiflis, comme bon, être de Paris ou d'une autre grande ville européenne, qui se démarque un petit peu du reste de la région.
À cette époque, l'Église orthodoxe fait partie intégrante de l'administration impériale. C'est l'un des principaux organes de ce monde russe, comme on l'appelle aujourd'hui. Ce séminaire orthodoxe était « célèbre » entre guillemets pour la cruauté de son régime. Le bâtiment lui-même était surnommé « le piège de pierre » à cause de sa configuration. Quand le jeune Soso Djougachvili, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Staline, a commencé ses études, il y avait déjà là tout un monde qui le précédait. De nombreux groupes politiques clandestins, une presse manuscrite diffusée sous le manteau, des étudiants qui lisaient les nouvelles de Tchanichevski ou le manifeste du Parti communiste, et toute une littérature marxiste qu'ils dissimulaient soigneusement à l'intérieur de leur Bible pendant la messe. C'est un lieu qui produisait des révolutionnaires actifs, des personnes opposées à l'Empire tsariste et, de surcroît, athées. Staline a été en quelque sorte contaminé par ces mouvements et ces idées. Mais en même temps, il était obnubilé par l'idée d'être au centre, dans une position de leader et de messie.
Dans la biographie autorisée, c'est-à-dire autorisé par lui-même, le jeune futur Staline aurait été exclu du séminaire pour propagande marxiste en mai 1899. Selon les biographies établies par Oleg Klevniuk et Ronald Sunny, la réalité est un peu plus nuancée. Il était certes devenu un élément perturbateur, plusieurs fois mis à l'isolement, mais il est exclu plutôt discrètement sous le prétexte de ne s'être pas présenté aux examens. Le certificat qu'il reçoit 4 mois après son renvoi fait toutefois état d'excellentes notes. 5 en conduite, en logique et en chant liturgique, soit la meilleure note. Et 4, c'est-à-dire très bien, dans 13 autres matières. Un certificat qui, faute de lui ouvrir les portes de l'université, lui donne le droit d'enseigner les matières religieuses à l'école élémentaire. Ce qu'il ne fera pas. Quant à sa mère, Ekaterine Geladze, elle confiera plus tard avoir simplement retiré son fils du séminaire parce qu'il était malade. Toujours est-il qu'à cette période, Joseph Djougachvili rencontre de nombreux marxistes, des futurs bolcheviques de diverses origines, comme Soren Spandarian ou Lev Rosenfeld, qui passera à la postérité sous le pseudonyme de Lev Kamenev, et de nombreux futurs mencheviks, parmi lesquels l'un des fondateurs du Parti ouvrier social-démocrate de Géorgie, Noé Jordania, futur président de la brève République indépendante de Géorgie, qui aurait alors renvoyé le jeune Joseph à ses études, faute de maturité. La scission entre les deux courants, bolchévique et menchévique, se produira en 1903.
C'est un homme des confins, c'est un homme de la périphérie, c'est un homme d'un Caucase cosmopolite qui se retrouve aussi dans ce Caucase cosmopolite dans les différents mouvements politiques, y compris dans le Parti social ouvrier social-démocrate de Russie et puis notamment ensuite le courant bolchévique.
C'est un rebelle dès le début, donc évidemment il est attiré par le marxisme, mais le problème c'est que le marxisme géorgien est dominé à l'époque, mais vraiment de façon quasi totale, par la social-démocratie, par ceux qui deviendront plus tard des mencheviks.
Tornike Gordadze, politologue.
Et donc des gens qui sont plutôt réformistes, qui sont opposés évidemment au pouvoir tsariste, mais qui ne sont pas du tout pour la dictature du prolétariat ou pour une révolution violente. Et ils sont vraiment majoritaires dans ces milieux marxistes géorgiens. Et les bolcheviks, ou ceux qui deviendront bolcheviks plus tard, sont ultra minoritaires. Donc Staline, à cause de son parcours personnel et sa position de prétendant permanent, s'oppose non seulement à la bourgeoisie, à l'aristocratie géorgienne, mais aussi aux marxistes géorgiens qui l'accusent d'être rétrograde et même d'être au service finalement de la classe dominante. Donc ses premières années, ses premiers écrits se caractérisent par des attaques virulentes, même plus contre les marxistes géorgiens que contre l'aristocratie et la bourgeoisie. Lui-même, il se situe dans la frange la plus radicale et marginale de ces marxistes qui recourent à la lutte armée, au terrorisme, à l'attaque des banques. Notamment, il participe à l'attaque de la banque postale à Tiflis, qui est l'un des plus grands hold-up de l'histoire de l'Empire tsariste.
D'une certaine façon, Staline est une particularité dans le mouvement parce qu'il n'adhère pas au menchévisme, entre guillemets, qui prône une organisation plus libérale, plutôt de sympathisants, alors que les bolcheviks qui veulent une organisation plus de militants professionnels, de révolutionnaires professionnels. Mais on retrouve beaucoup de caucasiens, notamment d'arméniens, dans le courant bolchevique, dont des personnalités comme Camo, qui est le nom de guerre de Simon d'Herpétrossian, qui est un autre jeune révolutionnaire. Et la particularité de ces caucasiens, c'est qu'ils font beaucoup de... souvent des hommes de main, alors qui alimentent le trésor de guerre, hein, qui prélèvent l'impôt révolutionnaire, alors soit auprès de la bourgeoisie qui rackette, en fait, soit avec des attaques de banques. Hein. Il y en a une très célèbre à Tiflis, on attaque la banque de Tiflis pour alimenter en fond la révolution. Ce sont aussi des, alors pas des porteurs de valises comme, mais un petit peu l'équivalent, qui font passer les presses de l'Iskra, l'étincelle, le journal de Lénine, par ce qu'on appelait la route des chevaux par l'Iran, qui arrive d'Europe et qui de Genève ou d'ailleurs et qui passe par l'Iran et donc ils font transiter à travers les montagnes du Caucase pour arriver jusqu'en Russie. Et donc c'est des hommes qui sont peut-être moins théoriciens, mais plus dans l'action.
Stalin's specificity was that he was a pragmatic.
La particularité de Staline, c'est qu'il était un pragmatique. Il était pragmatique. C'était un bon organisateur. Personne ne lui conteste ce talent. Il travaillait sur le terrain, il était constant et n'abandonnait pas. Beaucoup de bolcheviks et de révolutionnaires ont laissé tomber dans les années qui ont suivi l'échec de la révolution de 1905. Pas Staline. Non, il a continué. Il n'était pas un théoricien, un théorétique, c'était un pragmatique, un pratique. Et Lénine appréciait ça. Il avait besoin de gens comme lui qui travaillaient sur le terrain, qui structuraient les travailleurs, qui agissaient dans la clandestinité, qui faisaient vivre l'organisation. Staline était aussi ce que l'on appelle un comité chic, un homme de comité. Il travaillait dans l'infrastructure du parti, au sein des comités organisés dans la clandestinité. Toute cette organisation était illégale.
À l'époque, l'art du transformisme était utile et répandu chez les révolutionnaires. En particulier chez les membres des groupes clandestins, chargés de transporter des publications illégales, des armes, des explosifs, d'organiser des réunions dans des lieux secrets et faire tourner des imprimeries clandestines. Certains d'entre eux étaient bien connus pour être des maîtres du travestissement, de véritables caméléons. Ils changeaient sans cesse d'apparence. Ils trompaient les officiers de police et leurs indicateurs et parvenaient à échapper à leur surveillance. Ils se déguisaient eux-mêmes en officiers de police, en princes géorgiens ou en membres de l'aristocratie, en fonctionnaires ou en petits vendeurs des rues, les quintos, qui portent des vêtements orientaux très particuliers. Les femmes révolutionnaires, de leur côté, avaient le privilège de pouvoir échapper aux fouilles dans la rue. Elles dissimulaient sous leurs vêtements des armes et des grenades, faisaient office de messagères.
Joseph Djougachvili, dit Soso, est décrit dans un rapport de police comme un individu extraordinairement prudent qui regarde derrière lui. Il maîtrise probablement lui aussi parfaitement les métamorphoses vestimentaires et s'installe dans une vie nomade et clandestine après un bref emploi à la station météorologique de Tiflis. Devenu un révolutionnaire à part entière, il fuit la surveillance tsariste, se déplace beaucoup, circule entre Tiflis, Batoumi et Bakou.
Au début du XXe siècle, Bakou est la première ville pétrolière du monde. C'est la ville de l'or noir. Avec le développement de l'industrie pétrolière, de l'extraction pétrolière, mais aussi de l'acheminement du pétrole, la construction des pipelines, la construction des machines, l'arrivée des machines, il y a toute une industrie qui se développe avec de très grandes fortunes qui se bâtissent parfois en quelques jours. Hein, on creuse et puis il y a un puits de pétrole qui jaillit. Il y a besoin de main d'œuvre. Il y a un milieu ouvrier qui se développe à Bakou avec des ouvriers de toutes les nationalités. Et donc à la fois des ouvriers de Géorgie, des ouvriers d'Arménie, il y a des Azéris bien sûr, des Russes. Et donc qui dit monde ouvrier dit aussi exploitation ouvrière à cette époque. Les conditions sont très très dures. Ils sont couverts de noir, ils sont tendus de pétrole, il n'y a pas de conditions du tout de sécurité. Et même le simple fait de pouvoir se laver devient une gageure. Donc c'est un terreau propice pour tous les mouvements révolutionnaires et bien sûr tous les groupes révolutionnaires ou les partis ou les syndicats. Il y a des syndicats légaux qui commencent à se mettre en place. Donc, c'est pas étonnant que Staline et d'autres caucasiens, Mikoyan par exemple, bien se retrouvent là où il y a un monde ouvrier.
Irvelat ratom daichires, raigo misesi, is daichirest
Il a été arrêté à Batoumi. Ici, vous pouvez voir des témoignages, une petite pièce, une maison. Il dirigeait le mouvement bolchevique à Batoumi. Et c'est pour cette raison qu'il a été arrêté. Il était là-bas pour diffuser les idées révolutionnaires et bolcheviques. Ce tableau représente précisément cet événement. Staline prend la parole à l'occasion d'un rassemblement ouvrier en 1902. Il s'adresse au peuple. Il l'exhorte à sortir dans la rue, à s'élever contre les oppresseurs, contre les exploiteurs des masses. Il leur donne de l'espoir avec ses paroles. C'était comme ça à cette époque.
Quand Staline arrive à Batoumi, il entre en contact avec des membres du comité révolutionnaire local et se fait passer pour l'émissaire du comité révolutionnaire de Tiflis. Et il commence à créer une organisation clandestine parallèle. Il met sur pied des grèves parmi les ouvriers des raffineries de Batoumi et une grande manifestation organisée à son initiative et réprimée dans le sang par la police. Plusieurs dizaines de manifestants sont tués car l'armée commence à tirer sur la foule. Suite à cet événement, les dirigeants révolutionnaires de Batoumi le soupçonnent d'être un espion infiltré de la police secrète tsariste, l'Okhrana. Parce que tout dans son comportement, sa manière d'exercer un chantage sur l'ensemble du mouvement, de radicaliser les ouvriers, tout rappelait les méthodes habituelles des espions du système tsariste, les agents provocateurs, comme on les appelait à l'époque. Il est arrêté par la police, incarcéré à la prison de Koutaïssi et exilé une première fois en Sibérie.
Là, vous voyez sur la carte, c'est noté 1903. Il avait été arrêté à Batoumi. Et cette année-là, on l'envoie en Sibérie. Il s'en échappe en 1904 et revient à Batoumi. Il a été arrêté 7 fois au cours de son activité révolutionnaire. Il a été exilé 6 fois, il s'est évadé 5 fois. Et une fois seulement, il n'est pas parvenu à s'évader.
Le système des exils et des prisons tsaristes était assez poreux. Il n'était pas difficile de s'échapper. On vous envoie d'abord quelque part, disons à Voronej. Ensuite, on vous emmène plus loin et on vous donne une maison pour vivre. Et vous pouviez vous en aller, vous pouviez trouver un moyen. Ce n'est pas comme s'ils avaient tous été enfermés dans des donjons ou des prisons. Ils étaient pour la plupart exilés. Staline s'est évadé plusieurs fois, 4, 5, 6 fois. Mais la dernière fois, il a été envoyé en Sibérie, à Krasnoïarsk. Et de là, dans une petite ville du Grand Nord. C'est là qu'il a décidé de ne pas tenter d'évasion et de rester. Il a finalement été libéré par la révolution de 1917.
Que pouvons-nous apprendre sur la jeunesse de Staline quand la majorité des mémoires qui lui ont survécu furent rédigées a posteriori, une fois Staline parvenu au pouvoir? Il semble peindre la jeunesse du futur dictateur, et non celle du véritable Joseph Djougachvili. Là aussi, il faut accepter les jeux de miroir, les reflets, les faux-semblants.
Il y a des images tangibles de Staline que l'on trouve autant dans les témoignages amicaux que dans ceux qui lui sont hostiles, et qui racontent sa manière d'être, ce à quoi il ressemblait, qu'il était pragmatique, qu'il pouvait tromper, manipuler, tout pour le mouvement révolutionnaire. Il n'était pas sentimental, ça c'est très clair. Il avait le sens de l'humour, tous les témoignages en font état, mais un sens de l'humour cynique et dur. Il aimait se moquer des gens, l'humour lui servait à les dénigrer, à les rabaisser. Et toujours cette insistance sur le fait qu'il était un homme pratique, bon organisateur, infatigable, un dur à cuire, ce qui était perçu comme positif chez les révolutionnaires. Ils ne voulaient pas passer pour des tendres, des doux. Les bolcheviks accusaient les mensheviks d'être trop doux. Et Staline se plaisait même à surjouer le dur à cuire, le simple prolétaire révolutionnaire.
Après, dans les périodes de pouvoir stalinien proprement dit, au moment de la terreur, l'un des éléments, c'est l'histoire revisitée sur le rôle réel de Staline dans le mouvement bolchevique en Transcaucasie, au Caucase du Sud. Donc Beria va écrire une histoire du mouvement bolchevique en Transcaucasie qui privilégie le rôle de Staline, en montrant que c'était le chef de tout, mais il y a des vieux compagnons de Staline qui ont vu ce qu'il était au début. Donc dans ses débuts, il n'était pas forcément le leader qu'il est devenu ensuite dans l'histoire revisitée. Qu'il soit avant Beria, soit après ont tenté de réécrire la véritable histoire du mouvement bolchevique en Transcaucasie et qui se feront bien sûr liquider.
Une histoire revisitée et nettoyée. À qui se fier? Chacun décline les rôles et les identités en temps de clandestinité. Staline, comme les autres.
Staline avait deux noms, disons ça comme ça. Le plus courant était Коба. Et jusqu'à la fin de sa vie, on l'appelait comme ça. Коба, c'était un personnage tiré d'un roman géorgien, un brigand noble qui luttait pour le bonheur du peuple. Staline aimait beaucoup ce roman, le parricide, et c'est pour cette raison qu'il a adopté ce surnom. Jusqu'à sa mort, ses amis proches l'appelaient Коба. Bien sûr, tous les révolutionnaires se choisissaient des pseudonymes, à la fois comme nom de plume et pour préserver leur anonymat.
Nous savons que Ulyanov était Lénin, Molotov, Scriabin.
Vladimir Ulyanov est devenu Lénine, Vyacheslav Scriabin a pris le nom de Molotov.
А Сталин принял такое имя.
Quant à Staline, il a choisi ce nom qui évoque le métal révolutionnaire, l'acier. Son nom a donc été russifié, ce qui est compréhensible. Et de fait, tous ces révolutionnaires cherchaient à se présenter comme faisant partie d'un large mouvement révolutionnaire en Russie.
И Сталин, собственно говоря, все знали, что он грузин.
Tout le monde savait que Staline était géorgien, mais toute sa vie, il s'est identifié à la majorité russe du pays.
Он говорил по-русски, он писал по-русски.
Il parlait et écrivait en russe. C'est aussi pour cette raison qu'il a choisi un nom révolutionnaire à consonance russe, Staline.
Коба était son nom quand il était un jeune révolutionnaire. Il est devenu Staline après avoir été exilé dans la région de Touloursk. C'est une région du nord où les conditions sont extrêmement difficiles, au point que peu de gens peuvent y survivre. Il a été libéré, il en est sorti vivant, et il aurait même dit quelque chose comme « Regardez comme je suis fort, je suis aussi dur que l'acier ». C'est l'une des versions de l'origine de son nom. L'autre version est liée à son nom de famille, Djougachvili. Le mot « Djouga » en vieux géorgien signifie « acier ».
Il y a aussi la troisième version, celle de sa maîtresse Ludmila Stal.
Nous n'évoquons pas les femmes de Staline avec nos visiteurs. Mais vous savez, il en a eu beaucoup. Je le suppose, car il était un homme ordinaire qui aimait les femmes. On n'en parle pas dans notre programme de visite.
Le mystère restera entier. Et en définitive, il n'a strictement aucun intérêt. Les tribulations amoureuses réelles ou supposées de Joseph Djougachvili, dit Soso, dit Koba, dit Staline, semblent tout à fait secondaires dans son parcours et n'éclairent pas sa trajectoire politique. Mais au milieu de ses photos de jeunesse, celles de l'adolescent, celle du séminariste en soutane, celle du jeune homme aux cheveux longs, assez beau, foulard autour du cou ou chapeau sur la tête, régulièrement photographié d'ailleurs sous tous les profils par les autorités judiciaires en 1906, 1910, 1911, 1912, une photo de 1907 détonne. Trois jeunes gens et un vieil homme à la barbe blanche de patriarche. La famille Svanidze. Une femme mûre, la tête couverte d'un foulard, Ekaterine Geladze, la mère de Staline. Et un jeune homme svelte, brun, barbu et moustachu, les cheveux ébouriffés, la tête inclinée et les mains dans les poches de son manteau, Joseph Djougachvili. Tous sont vêtus de noir et baissent les yeux sur un cercueil rempli de fleurs où repose une jeune femme d'une vingtaine d'années, Ekaterine Svanidze, dite Kato, que Joseph a épousée en 1906 et avec qui il a eu un enfant en 1907, Yakov. Lacha Bougatze, écrivain et auteur dramatique.
Voici une photo prise aux funérailles de Kato Svanidze. On voit Soso Djougachvili, qui à l'époque est déjà un terroriste. Il a été temporairement libéré de prison pour assister à l'enterrement de sa femme. Et le voici, jeune, sombre, très malheureux. Je m'arrête un instant. Il est encore très jeune, mais le poète est déjà loin derrière lui. Il n'est plus Sosello. Là, il a déjà commis un acte terroriste majeur à Tbilissi, un braquage de banque avec son subordonné Camo, le célèbre Camo. Mais surtout, la légende raconte qu'il a prononcé des mots très importants à ses funérailles. Ce n'est pas historiquement prouvé, mais on raconte que Staline pleurait aux funérailles de Kato Svanidze. On dit même qu'il aurait essayé de sauter dans sa tombe. En revanche, ce qui est attesté, c'est qu'il aurait déclaré « C'était la dernière personne qui réchauffait mon cœur froid. » Il semblerait bien que Kato Svanidze soit la dernière personne pour laquelle il ressentait un attachement profond. Même envers ses propres enfants, il semble ne pas avoir éprouvé de tels sentiments. Sur cette photo, ça me semble manifeste. C'est probablement la seule photo où transparaît sa tragédie personnelle. Elle n'apparaît nulle part ailleurs.
Peut-être que c'est une légende, encore une fois, qu'il était très amoureux de sa première femme.
Nino Kirtadze.
Selon la légende, Staline disait que cette femme a su adoucir son âme. Elle est morte de tuberculose. Les gens disaient qu'il était inconsolable. À l'époque, c'était dangereux pour lui de venir pour son enterrement. Donc il est venu de Bakou pour une nuit, juste pour dire ses adieux. Et apparemment, il a sauté dans la fossée quand on a mis son cercueil. Et que, parce qu'elle était croyante, il a baptisé son fils Jacob secrètement. Mais bon, après, ça ne l'a pas empêché d'envoyer au goulag toute sa famille aussi, des Svanitsé. C'est ce qu'il a fait aussi avec la famille Alilouéva. Quand sa deuxième femme, Alilouéva, s'est suicidée, c'est pareil. Les enfants restaient, mais sa famille a souffert de purge. Comme la femme de Molotov, elle aussi, elle était dans les camps de son ministre des Affaires étrangères.
Quand on se penche sur sa jeunesse, on voit qu'il parvient à développer une forme de charisme. Il attire, il arrive à commander les autres, il peut susciter la loyauté. Mais la trame générale, c'est l'érosion de l'empathie. Ce garçon, qui est un poète romantique et d'une certaine manière un nationaliste géorgien, devient une sorte de personnage machiavélique qui subordonne tout à la lutte pour le parti. Pas pour lui-même. À l'origine, ce n'est pas un criminel qui essaie de s'enrichir ou quelque chose comme ça. C'est un révolutionnaire qui croit en la cause. Je vais faire des choses terribles. Je vais peut-être commettre des meurtres pour réaliser le socialisme. Et bien sûr, à mon avis, en adoptant ces méthodes, on sape la part humaniste du socialisme. Mais c'est le choix que les bolcheviks ont fait.
Je pense que c'est un homme, voilà, c'est comme ces trois prénoms. Chacun correspond à une partie de sa personnalité, qui peut-être continue à vivre, mais ça devient plus petit. Le poète en lui peut-être prend une toute petite place, d'où l'intérêt à qui écrit quoi, qui est un bon poète, qui est un mauvais poète. Il s'intéresse beaucoup à la littérature, il s'intéresse beaucoup aux films, aux réalisateurs, et ainsi de suite. Il lit beaucoup, Sosello. Après, il y a un vrai bandit, vraiment, qui est Koba. Et ça aussi, ça continue à vivre, évidemment. Évidemment. Et après, c'est l'homme d'acier. Il n'y a rien qui peut, semble, le perturber. Et même s'il est perturbé, il va tout faire pour l'oublier immédiatement. Donc c'est un homme impénétrable, fait d'acier, inatteignable par des sentiments humains. Par la fragilité, par le doute. En tout cas, c'est l'image qu'il donne. Et tous les trois coexistent différemment.
Nous sommes en Géorgie, à Tbilissi. En haut du mont Tatsminda, la sainte montagne sur la rive droite du fleuve Koura, Mtkvari, qui traverse la ville du nord au sud. Il faut serpenter le long d'un chemin très escarpé pour y accéder, et perché au milieu des arbres, on aperçoit toute la ville. Autour d'une église, quelques touristes sillonnent entre les tombes et les voies se superposent. Nous sommes au Panthéon national géorgien. Une petite dame chenue, fichue sur la tête, comme surgit d'un conte. elle est guide et commente en russe. Ici, la tombe du poète Alexandre Griboïedov. Là, une tombe de marbre noir sur laquelle est posé un bouquet de fleurs jaunes, la tombe de Ekaterine Djougachvili, née Geladze, la mère de Staline. Elle est décédée en 1937. La guide nous raconte que Staline n'est pas venu à son enterrement. Il en a délégué l'organisation à Beria, alors à la tête du Parti communiste géorgien, et par ailleurs membre du comité central du Parti communiste de l'URSS. Staline, dit-elle, se serait modestement étonnée de voir sa mère enterrée au Panthéon. Était-elle donc une figure publique? Et lors de sa première visite à la défunte, toute la prestigieuse délégation serait humblement montée à pied depuis l'avenue Roustavéli. La reine Tamar est arrivée en marchant sur la Sainte Montagne, aurait dit Staline. Alors pourquoi viendrions-nous en voiture? Ainsi se ferme, par une demi-légende ou une vraie fable, la jeunesse de Joseph Djougachvili, dit Staline, qui a toujours veillé de la manière la plus brutale à n'en pas laisser filtrer le moindre détail trop personnel ou compromettant. À la fin des années 30, l'écrivain Mikhaïl Bulgakov, qui avait pour le moins des rapports compliqués avec la censure et avec Staline lui-même, entreprend d'écrire une pièce intitulée « Batoum » sur la jeunesse révolutionnaire de Staline dans le Caucase. La pièce obtiendra les visas de censure, mais sera interdite par son personnage principal, Staline, à qui elle avait déplu. Devenir Staline. Deuxième épisode. Une jeunesse caucasienne. Avec Lacha Bakradze, Lacha Bougadze, Tornike Gordadze, Nana Yashvili, Oleg Klevniuk, Irakli Khvadagiani, Nino Kirtadze, Claire Mouradian, Françoise Thom, Ronald Grigor Suni. Et les voix de Lucie Grunstein et Julie Pouillon. Merci à Irma Jajanashvili et Irma Inaridze pour les contacts et les traductions en Géorgie, à Sovlab, à Nana Ginaridze, Régis Janté, Charles Lourievitch et Pierre Benazé. Documentation Anne-Lise Signoret, documentation musicale Antoine Vuilloz, documentation INA Sophie Enoch. Prise de son Benjamin Thuot, Éric Boisset, et Benjamin Vignal. Mixage, Manuel Couturier. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Coordination, Christine Bernard. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Une grande traversée de Marie Chartron, réalisée par Diffie Mariani.